Le temps est venu, homme approximatif. Comme moi, comme toi, lecteur, et comme les autres, amas de chair bruyante et d'écho de conscience, complet dans le seul morceau de volonté ton nom. Transportable et assimilable, poli par les dociles inflexions des femmes, divers incompris, selon la volupté des courants interrogateurs. Homme approximatif, te mouvant dans les à peu près du destin, avec un cœur comme valise, et une valse en guise de tête. Buée sur la froide glace, tu t'empêches toi-même de te voir, grand et insignifiant parmi les bijoux de verglas du paysage. Cependant, les hommes chantent en rond sous les ponts, du froid la bouche bleue contractée plus loin que le rien, homme approximatif ou magnifique ou misérable, dans le brouillard des chastes âges, habitation à bon marché, les yeux ambassadeurs de feu, que chacun interroge et soigne, dans la fourrure de caresse de ses idées. Yeux qui rajeunissent les violences des dieux souples, bondissant au déclenchement des ressorts dentaires du rire. Homme approximatif comme moi, comme toi, lecteur, tu tiens entre tes mains, comme pour jeter une boule, chiffre lumineux, ta tête pleine de poésie. Le temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu'ils sont profondément enfoncés dans la vie des autres hommes, dans la vie commune. Au sommet du tout. Oui, je sais, ils ont toujours été quelques-uns à nous conter cette baliverne. Mais comme ils n'y étaient pas, ils n'ont pas su nous dire qu'il y pleut, qu'il y fait nuit, qu'on y grelotte, qu'on y garde la mémoire de l'homme et de son aspect déplorable, qu'on y garde, qu'on doit y garder la mémoire de l'infâme bêtise, qu'on y entend des rires debout, des paroles de mort. Au sommet de tout, comme ailleurs, plus qu'ailleurs peut-être pour celui qui voit, le malheur défait et refait sans cesse un monde banal, vulgaire, insupportable, impossible. N'usant des contradictions que dans un but égalitaire, la poésie, malheureuse de plaire quand elle se satisfait d'elle-même, s'applique depuis toujours, malgré les persécutions de toutes sortes, a refusé de servir un ordre qui n'est pas le sien, une gloire indésirable et les avantages divers accordés au conformisme et à la prudence. Poésie pure, la force absolue de la poésie purifiera les hommes, tous les hommes. Écoutons l'autre amont. La poésie doit être faite par tous, non par un. Toutes les tours d'ivoire seront démolies, toutes les paroles seront sacrées, et l'homme, s'étant enfin accordé à la réalité qui est sienne, n'aura plus qu'à fermer les yeux pour que s'ouvrent les portes du merveilleux. Mais un règne de la nécessité subsiste toujours. C'est au-delà de ce règne que commence le développement des puissances de l'homme qui est à lui-même sa propre fin, qui est le véritable règne de la liberté, mais qui ne peut s'épanouir qu'en s'appuyant sur ce règne de la nécessité. Lucien Bonafé, psychiatre désaliéniste, communiste, créateur du secteur avec quelques autres, médecin à Saint-Alban et à bien d'autres endroits, nous invite dans l'ombre et la lumière de la folie. C'est le texte d'une conférence prononcée à Puy-Lausanne le 25 septembre 1969. Pour clôturer une exposition sur l'œuvre et la vie de Paul Éluard. D'autres poètes se sont éveillés avant lui. D'autres se lèveront vers d'autres horizons. La vieillerie poétique avait une bonne part dans mon alchimie du verbe. Je m'habituais à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambour faite par des anges, des calèches, sur les routes du ciel, un salon au fond d'un lac. Les monstres, les mystères, un titre de vaudeville, dressaient des épouvantes devant moi. Puis, j'expliquais mes sophismes magiques avec l'hallucination des mots. Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit. J'étais oisif, en proie à une lourde fièvre. J'enviais la félicité des bêtes, les chenilles qui représentent l'innocence des limbes, les taupes, le sommeil de la virginité. Mon caractère s'aigrissait. Je disais adieu au monde dans d'espèces de romances. Qu'il vienne, le temps dont on s'éprenne. J'ai tant fait patience qu'à jamais j'oublie, crainte et souffrance, aux cieux sont partis, et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'il vienne, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie, à l'oubli livrée, grandit et fleurit, dansant et d'ivraie, au bourdon farouche, des sales mouches. Qu'il vienne, le temps dont on s'éprenne. J'aimais le désert, les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies. Je me traînais dans les ruelles puantes et, les yeux fermés, je m'offrais au soleil, dieu de feu. Général, s'il reste un vieux canon sur tes remparts en ruine, bombarde-nous avec des blocs de terre sèche. Aux glaces des magasins splendides, dans les salons, fais manger sa poussière à la ville, oxyde les gargouilles, emplis les boudoirs de poudre de rubis brûlante. Oh, le moucheron enivré à la pissotière de l'auberge, amoureux de la bourrache et que dissout un rayon. Le loup criait sous les feuilles, en crachant les belles plumes de son repas de volaille. Comme lui, je me consume. Les salades, les fruits n'attendent que la cueillette, mais l'araignée de la haie ne mange que des violettes. Que je dorme, que je bouille, aux hôtels de Salomon, le bouillon court sur la rouille et se mêle au cédron. Enfin, au bonheur, aux raisons, j'écartai du ciel l'azur qui est du noir, et je vécus, étincelle d'or de la lumière nature. De joie, je prenais une expression bouffonne et égarée au possible. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer mêlée au soleil. Mon âme éternelle observe ton vœu, malgré la nuit seule et le jour en feu. Donc tu te dégages des humains suffrages, des communs élans, tu voles selon. Jamais l'espérance, pas d'orieture, science et patience, le supplice est sûr. Plus de lendemain, braise de satin, votre ardeur est le devoir. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer mêlée au soleil. Voilà ce qu'entend le psychiatre avec le plus de ferveur lorsque le travailleur de la communication, celui qui a pour travail de vivre l'existence d'êtres disjoints, de les aider à retrouver une unité. Cette unité qui est constamment dans le discours du poète. De mettre en œuvre avec eux la restauration d'une communication qui leur permettra de retrouver la communication avec l'ensemble des hommes. En même temps qu'il doit aider tout un chacun qui ne les comprend pas à mieux les comprendre. Lorsque cet homme, dont la recherche et l'activité ont pour matière et pour fin la levée des inhibitions et des barrières qui s'opposent au développement des puissances de l'homme, lorsque cet homme, donc, participe à l'éloge d'une poésie utile, comme celle que nous célébrons ici, il ne peut que s'affirmer dans la ligne de son plus illustre prédécesseur, Philippe Pinel, qui, sur les images légendaires, brise les chaînes des aliénés. Et il ne peut oublier comment celui-ci se définissait lui-même. Je suis certes partisan zélé de la médecine d'observation et de ses droits à l'estime publique, mais bien plus encore des grandes vérités qui intéressent l'ensemble de l'humanité. Une génération passe et une autre lui succède, mais la terre demeure toujours. Le soleil se lève et se couche, et il retourne d'où il était parti. Tous les fleuves entrent dans la mer, et la mer n'en regorge point. Les fleuves retournent au même lieu d'où ils étaient partis, pour couler encore. Toutes choses ont leur temps, et tout passe sous le ciel, après le terme qui lui a été prescrit. Il y a tant de tuer et tant de guérir, tant d'abattre et tant de bâtir. Il y a tant de déchirer et tant de rejoindre, tant de se taire et tant de parler. Il vaut mieux voir ce que l'on désire que de souhaiter ce que l'on ignore. Mais cela même est une vanité et une présomption d'esprit. Qu'est-il nécessaire à un homme de rechercher ce qui est au-dessus de lui, lui qui ignore ce qui est avantageux en sa vie, pendant les jours qu'il est étranger sur la terre, et durant le temps qui passe comme l'ombre. La poésie doit avoir pour but la vérité pratique. Nous parlons aujourd'hui du meilleur combattant pour la réalisation de ce mot d'ordre que nous ayons connu. Et l'on m'a demandé de parler en tant que psychiatre. Demande dont le sens mérite déjà que l'on s'interroge. Pourquoi me demande-t-on si souvent de parler d'Éluard ? Je ne suis pas un homme mêlé à la vie, disons, artistique et littéraire. Je suis un homme dont la trajectoire est mobilisée sur des tâches professionnelles et militantes très lourdes. Je n'ai suivi Paul de très près, au cours de son existence, que durant son séjour chez moi, à Saint-Alban. Nos relations dataient du moment où j'allais prendre contact avec les surréalistes parisiens, de la part de ce groupe toulousain dont nous étions, avec Jean Marcenac, groupe dans lequel nous fûmes ces gays terroristes, sentimentaux, à peine plus qu'il était de saison. Pour dire comme André Breton, parlant de Jacques Vacher, dans un texte qui se termine par ces mots simplement merveilleux. Cet homme fut mon ami. Toi, ma patiente, ma patience, ma parente, gorge haut suspendue, orgue de la nuit lente, révérence cachant tous les ciels dans sa grâce, prépare à la vengeance un lit d'où je naîtrai. Il n'y a rien d'incompréhensible. Et si, travailleurs de la communication, comme nous le sommes, nous qui avons pour fonction d'entendre les rejetés, ceux que personne n'entend et qui cherchent à se faire entendre de nous pour redevenir aptes à s'entendre avec l'autrui banal, nous avons quelques leçons à assimiler pour mieux comprendre. Alors écoutons l'advenir. Au moment de revenir ici pour parler de ces choses difficiles, il est bien naturel que se soit imposé d'abord à moi le souvenir de l'écho rendu par le poète, au comble de la mise à l'écart de l'homme proscrit, la manière dont on enterre les fous. On a parqué les fous aussi loin que possible du monde des vivants, et ces cités folles se sont équipées d'un cimetière à part. Lorsque le poète monte sur le plateau de Saint-Alban, et, de jour en jour, contemple dans son effet le plus saisissant la façon dont la folie est traitée, ou plutôt maltraitée, le comble de la partition, alors il écrit le cimetière des fous. Ce cimetière enfanté par la lune, entre deux vagues de ciel noir, ce cimetière archipel de mémoire, vie de vent fou et d'esprit en ruine. 300 tombeaux réglés de terre nue, pour 300 morts masqués de terre, décroissant non corps du mystère, la terre éteinte et l'homme disparu. Les inconnus sont sortis de prison, coiffés d'absence et déchaussés, n'ayant plus rien à espérer. Les inconnus sont morts dans la prison, leur cimetière est un lieu sans raison. À la thèse que le monde se compose de faits prosaïques auxquels l'homme poète ajoute selon son gré son chant, nous préférons celle qui englobe dans la nature toutes les données qui nous sont accessibles et qui en principe ne serait pas ne pas l'être. Nous préférons cette thèse qui affirme que la science dépoétise le tout pour en dégager ainsi son propre domaine. Le principe de solidarité structurale a, par sa nature même, une portée universelle. Cette universalité, il la porte en lui. Il s'étend à toute chose. L'étoile, comme nous-mêmes, s'intègre au monde de deux façons différentes. Elle le fait en occupant une place dans l'espace et en exerçant son attraction ou en agissant de toute autre façon sur les corps qui s'y trouvent. Avec eux, elle constitue le monde astronomique. Mais en même temps, elle s'entoure comme d'un nuage subtil et imperceptible, plein de vie et de poésie, qui, en émanant d'elle, reflète l'univers et qui, sans faire appel à la distance ni à l'espace, l'intègre au tout. il le fait d'une façon aussi intime que possible, puisque ce tout, l'étoile le porte maintenant en elle et l'exprime à sa façon. Elle s'intègre ainsi au cosmos dont elle nous révèle l'existence dans toute sa richesse intime, dans toute sa poésie première. Et l'enfant, en regardant l'étoile, y découvre tout un monde. Il est dans le vrai. Nous n'avons qu'à le suivre, en essayant toutefois de traduire par des mots sur quoi repose cette découverte, quel est ce mouvement particulier qui embrasse en un tout le cosmos, l'étoile et l'âme qui la contemple. Nomme, si tu peux, ton ombre, ta peur, et mesure-lui le tour de sa tête. Le tour de ton monde, et si tu peux, prononce-le le mot des catastrophes. Si tu oses rompre ce silence tissé de rires muets, si tu oses sans complice casser la boule, déchirer la trame, tout seul, et plante-la tes yeux, et viens aveugle vers la nuit, viens vers ta mort qui ne te voit pas. Seul si tu oses rompre la nuit pavée de prunelles mortes, sans complice si tu oses, seul, venir nu vers la mer des morts. Dans le cœur de son cœur, ta prunelle repose. Écoute-la t'appeler mon enfant. Écoute-la t'appeler par ton nom. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de celui qui est né du souffle de l'esprit.